France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse au sommeil des 0-6 ans. Comment aider les tout-petits à bien s'endormir et à mieux dormir? Quels sont les amis et les ennemis de leur sommeil? Quels sont les rituels les plus efficaces? À quoi doit ressembler une chambre propice au sommeil? Faut-il vraiment les coucher le plus tôt possible? Comment réagir s'ils se réveillent la nuit et se mettent à pleurer? On se demandera si un bébé doit faire ses nuits en dormant 10 heures d'affilée. Et puis nous verrons pourquoi le sommeil est fondamental pour leur bien-être, leur apprentissage ou encore leur maturation cérébrale. Nos invités attendent toutes vos questions et vos témoignages, que vous soyez parents, grands-parents, oncles, tantes ou nounous, au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli Radio France et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Héloïse Junier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, spécialiste de l'enfant, formatrice, conférencière, membre du comité scientifique de la Fondation pour l'enfance et vous publiez chez Duno « Le sommeil du jeune enfant de 0 à 6 ans pour les parents qui ne font pas leur nuit », un livre basé sur des données scientifiques. Bonjour Nadège Pétrel.
Bonjour.
Vous êtes infirmière puéricultrice, enseignante en yoga et vous publiez aux éditions Erol 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir, destinées aux parents d'enfants de 0 à 4 ans. Bonjour, oui. Docteur Arnaud Pfersdorf.
Bonjour Ali.
Expert habitué de cette émission, vous êtes pédiatre réanimateur, vous exercez à Strasbourg, créateur du site Pédiatre Online, une plateforme de téléconseil pédiatrique, et vous avez publié « Mon enfant ne dort pas, un problème, cette solution », publié chez Hachette Famille. Alors, docteur Pfersdorf, j'ai été très étonné quand vous m'avez dit avant cette émission que le sommeil des bébés commençait dans le ventre de la mère,
ah oui,
dans la vie intra-utérine.
Ah oui,
ça
oui,
m'a
oui,
beaucoup étonné.
À peu près vers la 27e semaine. Mm-hmm. Ça, c'est des choses, c'est formidable. Les chercheurs, ils font des trucs, c'est fabuleux. C'est quelque chose qui a pu être prouvé. Et même des phases de sommeil calme, des phases de sommeil agité. Et vous avez, entre autres, ça a pu être démontré, les mamans le savent bien, il y a c'est très dépendant aussi du taux de cortisol et du glucose chez la maman. Et souvent, ils sont un peu agités entre 21h et 24h. Ça tombe pas bien pour la maman, ça c'est sûr.
Docteur Héloïse Junier.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler, j'aime bien, parce que les parents me disent il faut que j'apprenne à mon bébé à dormir. Mais je leur dis, mais en fait, il dort très bien depuis la vie intra-utérine, votre bébé, donc il sait comment faire. Il faut juste avoir les bonnes conditions pour l'endormissement.
Alors, les situations qui empêchent l'endormissement ou qui perturbent le sommeil des tout-petits sont multiples. Par exemple, l'impossibilité de le laisser seul dans sa chambre, le refus d'aller se coucher, la demande du dernier câlin, la demande d'aller boire ou de faire pipi, l'agitation dans le lit, le réveil dans sa phase d'endormissement, les terreurs nocturnes, le cauchemar.
Oui.
C'est infini.
Oui, en fait, je crois que c'est aussi beaucoup, on a un rôle, nous les professionnels de santé, pour rappeler aux parents, vous savez, c'est écrit en tout petit en bas, ils lisent pas le contrat avant que le bébé arrive, et il y a marqué « oubliez les nuits ». En fait, ça veut simplement dire que les 2-3 premiers mois d'un nourrisson, il n'est pas rythmé par le soleil ou la nuit ou le jour, il est rythmé en fonction des repas, c'est ce qu'on appelle un rythme de sommeil ultradien, et une fois qu'on a expliqué ça aux parents, ils comprennent mieux.
Héloïse Junier.
Alors, cela dit, c'est vrai que les 2-3 premiers mois sont complexes, mais en fait, on peut voir que les réveils nocturnes sont très fréquents, jusqu'à 3 ans, voire 4 ans. D'ailleurs, il y a même une recherche, j'avais trouvé ça très rigolo, qui faisait des vidéos de nuit, donc par infrarouge. Ils mettaient des caméras infrarouges dans la chambre des enfants, et on voyait que les enfants de 3 ans, les bons dormeurs et les mauvais dormeurs, se réveillaient tout autant les uns que les autres. Sauf que les bons dormeurs, majeur de promo, se rendormaient tout seuls, alors que les mauvais dormeurs rappelaient leurs parents. Il y avait entre 1 à 3 réveils par nuit, jusqu'à l'âge de 3 ans, ce qui est énorme en fait. Donc les réveils nocturnes peuvent se prolonger après, et souvent ça peut être juste normal. Il y a plein de causes en fait, endogènes, exogènes, qui expliquent ça.
Au fond, pourquoi un enfant ne dort-il pas bien, ou a-t-il des difficultés à s'endormir? Pour beaucoup d'enfants, docteur Pfersdorf, aller dormir équivaut à un isolement. C'est presque une punition avec cette question, mais à quoi ça sert de dormir? Et puis il y a aussi le fait de se retrouver seul dans le noir, ça peut s'apparenter à une petite mort.
Alors il y a énormément de choses à dire effectivement, il y a plein de questions dans votre question, mais c'est vrai que L'enfant qui est droppé pour aller dormir, même si on lui raconte une histoire, même s'il y a un temps calme, en général, c'est vers l'âge de... quand il est rentré dans la période de l'angoisse de la séparation, après 9 mois, disons 10 mois, 15 mois. Mais avant, c'est très différent. Il accepte d'aller au lit, mais les causes de ne pas vouloir s'endormir sont très nombreuses. Ça peut être une colique, ça peut être parce qu'il a faim, ça peut être parce qu'il a chaud, parce que c'est pas assez humide dans la chambre, parce qu'il a entendu un bruit pour les tout petits nourrissons, parce que... il y a eu une sirène de pompiers. Mais ça ne va pas être immédiat, la réaction de l'enfant. Ça peut intervenir 12 heures, voire 24 heures après, et le parent ne fera pas forcément le lien.
Nadège Pétrel.
Oui, en fait, je voulais ajouter également que ça dépend aussi beaucoup de la sensibilité des enfants. En fait, il y a des enfants qui sont aussi hautement sensibles, et du coup, la moindre stimulation sensorielle, ça peut aussi effectivement empêcher ou retarder l'endormissement. Par exemple, un enfant qui va être très sensible au bruit, eh bien, c'est vrai que le moindre bruit, par exemple de vaisselle, etc., peut venir retarder son endormissement. Alors que quand ils ont une petite musique douce ou des fois une petite relaxation avant de dormir, ça les apaise et puis ça diminue un petit peu tous les bruits qu'on peut entendre dans la maison. Parce que des fois, il y a les murs qui craquent, etc. Et ça aussi, en étant tout seul dans la chambre, dans le noir, ça peut vite devenir un peu stressant.
Et Louise Junier, sur cette peur d'aller dormir, sur cette peur de l'isolement, sur le fait de quand on a l'impression que d'aller dormir, c'est une punition.
Oui. Mais en fait, j'aime bien rappeler à ce moment-là, pour les familles qui s'inquiètent, est-ce que c'est normal ou pas, que de base, le petit humain, donc c'est un mammifère qui est transporteur, il est fait pour dormir contre le corps de ses parents et pour trouver la réassurance contre le corps de ses parents. Beaucoup de parents me disent « Je comprends pas, il dort super bien avec moi en portage ou dans la chambre, mais quand il est seul dans son lit, il ne dort pas. » Parce qu'en fait, sur un plan vraiment... Enfin, l'être humain est fait pour dormir déjà en groupe, on est très grégaire, notamment la nuit, on est plus son propre prédateur, et d'autant plus quand on est immature, quand on a un an, deux ans, voire 10 ans de vie. Il y a même des mamans qui me disent « Ouais, mon mari part en déplacement, je dors moins bien. » Ben ouais, parce qu'en fait, tu es moins rassuré. Donc c'est quelque chose aussi normal, il faut normaliser le fait qu'on dort mieux avec quelqu'un que seul, quoi.
Alors, quand je vois, et c'est une cause de consultation très fréquente, les problèmes de sommeil chez les enfants jusqu'à un certain âge, et aussi en téléconsultation, on a beaucoup de demandes de conseils, c'est vrai que la première chose que nous demandons, que je demande quand j'ai les parents en face de moi, avant même qu'ils me disent les problèmes de sommeil qu'il a, puisqu'ils viennent me voir pour ça, je leur redemande comment s'est passée la grossesse. C'est très important, parce qu'une grossesse qui a été agitée, compliquée, où il y a eu un risque de tel ou tel diagnostic qu'il a fallu attendre, ça n'a l'air de rien. Mais le fœtus y ressent énormément de choses, donc c'est très important, c'est des informations qu'on a besoin de connaître. Le numéro dans la fratrie, ça joue aussi, comment ça s'est passé pour les autres enfants. Et puis, surtout, très important, et ça on ne le dit jamais aux parents, et on est très fautifs, nous, moi je le vois en salle d'accouchement, par exemple s'il y a eu un accouchement médicalisé, un forceps, une ventouse, une césarienne en code orange, dès que bébé va bien, ouf, on dit aux parents, tout va bien, c'est bon, allez, vous pouvez rentrer à la maison. Mais on oublie de leur dire l'essentiel. Souvent, c'est des enfants qui vont avoir soit des problèmes de succion, soit des problèmes de sommeil.
Et Louise Junier.
Alors en fait, effectivement, on voit, ça me fait penser à la question du tempérament, ce que vous dites Arnaud, on voit les enfants naissent avec un tempérament qui leur est propre, plus ou moins réactif au stress. Cet tempérament, il sera en partie biologique, donc génétique, il sera en partie peut-être lié à l'événement de la grossesse, peut-être de l'accouchement, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il n'empêche que dans les recherches, on voit très clairement que les enfants qui naissent avec un tempérament plus réactif que la moyenne, donc avec un cerveau plus réactif que la moyenne, génèrent plus de stress, plus de palpitations, plus de rythme cardiaque plus, enfin, respiratoire plus élevé. Ils auront plus de mal, et un, des fois, à s'endormir, et deux, surtout à se rendormir la nuit, avec plus de risques de parasomnie parfois, de cauchemars. De parasomnie, c'est un peu des comportements qu'on a la nuit, qui sont bénins, mais qui peuvent arriver. Les cauchemars, sans parasomnie, terreur nocturne, la somniloquie, le fait de parler dans le sommeil, le bruxisme, le fait de grincer des dents. Donc c'est bénin, il y a 8 enfants sur 10 de moins de 6 ans qui en ont régulièrement. N'empêche que ça crée des problèmes nocturnes aussi, et c'est lié aussi au stress diurne. Plus un enfant vivra du stress la journée, plus ses parasomnies pourront être intenses et fréquentes durant la nuit.
Et nous accueillons Louda. Bonjour Louda.
Bonjour.
D'où appelez-vous Louda ?
De Toulouse.
Très bien. Quelle est votre question ?
En fait, nous, on a une petite fille de 2 ans. Mmh. On a longtemps été dans un petit appartement à Paris. Et donc là, on vient de déménager à Toulouse dans un plus grand appartement. Mmh. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais dormi dans une chambre seule jusqu'à aujourd'hui. Et on a très très peur en fait de la faire dormir seule, parce que le fait de dormir dans notre chambre fait que au bout de 2-3 heures de sommeil, elle a toujours besoin de venir se rendormir avec nous. Elle se réveille, elle pleure, elle demande les bras, et elle finit sa nuit avec nous. Elle sait pas faire autrement. Et du coup, je voulais un peu des conseils pour savoir quoi mettre en place pour l'aider à accepter sa chambre, en tout cas et son lit plus.
Conseil d'abord de l'infirmière puéricultrice Nadège Pétrel.
Oui, alors déjà, j'ai envie de dire que ça, c'est très fréquent, parce que ce que le papa décrit, j'ai beaucoup, beaucoup de parents qui ont des enfants de 18 mois, 2 ans, qui me décrivent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'autour de minuit, 1 heure du matin, les enfants rejoignent les parents dans leur lit, et ça les rassure. Et souvent, ils redorment beaucoup mieux comme ça. Je pense que si ça ne dérange pas les parents, ça peut être comme ça pendant un temps, sans que ce soit gênant, en tout cas pour ma part. Et ensuite, ben, petit à petit, on peut essayer de proposer à l'enfant, quand même, d'essayer de se rendormir dans sa chambre, tout en restant près de notre enfant et en essayant de faire un petit peu comme le rituel du soir, mais en version raccourcie. Et souvent, ça rassure.
Docteur Persdorf.
Alors, 18 mois, c'est effectivement une période... Alors, moi, il y a un truc que je conseille aux parents et qui marche très bien. Et vous le disiez tout à l'heure, Ali, l'enfant, on le drop. Allez, tu vas au lit, on le drop, oui, que ça, on le drop, allez, hop, tu vas au lit, tu te brosses les dents, enfin, 18 mois, ça, ouais. Et puis, le gamin, il a pas envie, parce qu'il se retrouve tout seul et il entend bien que la vie continue derrière. En fait, très souvent, je remarque qu'à cet âge-là, 18 mois, 20 mois, 24 mois, les parents ne passent pratiquement jamais de temps dans la journée dans la chambre de leur enfant. Et en fait, ce qui est très important, c'est de rendre la chambre de l'enfant conviviale. Pas seulement pour le dropper le soir et lui dire bonne nuit, une petite histoire, et puis c'est bon. Il faut passer du temps dans la journée, s'inviter dans la chambre de l'enfant, se mettre par terre, ne pas forcément s'occuper de lui, simplement montrer sa présence. Passer 5 minutes, 10 minutes, soit le père, soit la mère. Hein. Et le soir, quand il s'agit d'aller au lit, on dit à l'enfant, est-ce que tu m'invites de nouveau dans ta chambre ? Et l'enfant va se souvenir que le parent a passé du temps avec lui. Et le soir, on ne raconte pas forcément une histoire. On passe un peu de temps, on le met sur un matelas type Montessori. Et à un moment donné, la mélatonine va agir, il va s'endormir.
La mélatonine, ça sert à quoi en deux mots, Héloïse Junier ?
Alors, c'est l'hormone qui va favoriser l'endormissement. Effectivement, plus on a un taux de mélatonine qui est haut, plus on s'endormira rapidement.
Un conseil à Louda ?
Ah oui, alors pour compléter ce que disaient mes collègues avec lesquels je suis complètement d'accord, l'idée, déjà, c'est aussi peut-être de lâcher prise. Ça ne marche pas. Dormir avec son enfant de 2 ans, ce n'est pas grave. Ouais. Le fait de dormir seul ou de s'endormir seul, c'est avant tout, vraiment, je répète, une injonction qui est culturelle. Il y a plus d'enfants dans le monde qui dorment avec leurs parents que l'inverse. Donc, et c'est classique qu'à 2 ans, même à 3 ans, mais moi, même, j'ai des parents qui me disent qu'à 6 ans, c'est le cas. L'enfant dort mieux avec le parent que seul. Je dis toujours, le principal, c'est pas qui dort où, c'est que tout le monde dorme. Le sommeil, c'est tellement important.
Louda, vous êtes satisfait des réponses ?
Oui, c'est parfait. Est-ce que je peux poser une toute petite question ?
Oui, allez-y, bien sûr.
On l'endort avec nous, on a un rituel où on lui lit plusieurs histoires et on l'endort dans nos plis parce que c'est plus pratique, on fait ça tous les trois ensemble. Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux qu'on l'endorme dans sa chambre directement ? Et voilà.
Et Louise Junier ?
Dans ces cas-là, en fait, on dit généralement que si le contexte d'endormissement est le même qu'au réveil la nuit, ce sera plus favorable pour le rendormissement la nuit. Donc l'idéal, si vous pouvez faire finalement tous les rituels de manière vraiment cyclique, tous les soirs, même le dimanche soir, même le week-end, même les vacances, dans sa chambre, qu'elle ait un emprunt dans sa chambre, il y aura plus de chances qu'elle se rendorme dans sa chambre. Mais des fois, ça ne marche pas non plus, parce que des fois, les enfants ont peur la nuit et ils rejoignent leurs parents. En tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est, à la rigueur, ce serait peut-être mieux si jamais vous voyez que tous ces conseils mis en place ne fonctionnent pas. La rigueur, c'est peut-être mieux de la faire dormir carrément dans votre chambre dès le début, dans un lit à part, dans un petit espace. Pourquoi ? Parce qu'on va éviter quand même d'avoir trop de déambulation la nuit. Si toute la nuit elle se réveille, elle change de lit, c'est quand même une activation qui n'est pas forcément favorable et qui peut se répéter après sur du long terme. Donc à la rigueur, mieux vaut carrément faire tout. Ça ne marche pas dans un deuxième plan, plan B, plan C, plan D.
Nadège Pétrel ?
Oui, moi je compléterais exactement ce que vient de dire Héloïse. En ajoutant aussi que le rituel du coucher, c'est important qu'il ne dure pas pendant trois quarts d'heure, une heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai entendu le papa dire « on lit plusieurs histoires ». Moi, j'aime bien en lire plusieurs en journée, mais en lire une seule le soir. Et de se dire que ça va durer 15 minutes max, pour le rituel du coucher. Elle est peut-être poussée jusqu'à 20, mais pas plus, pour pas que ça traîne trop non plus.
Merci beaucoup, Louda. Dans un instant, nous allons recevoir l'appel de Jérémy pour nous parler de son petit garçon de 15 mois. N'hésitez pas, comme Louda ou Jérémy, à nous appeler au 01 45 24 7000. Tiens, on s'intéressera tout à l'heure à cette fameuse expression « faire ses nuits » pour un bébé. On se retrouve juste après avoir écouté Kate Bush, une chanson sortie en 1978, « Wuthering Heights ». 10h21 sur France Inter. Bush interprétée Wuthering Heights.
France Inter.
Elle pleure.
Oui, chaque fois que je la recouche.
Elle a peut-être soif.
Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Essaie de la recoucher, on va chanter.
Grand bien vous fasse.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Ali Rébéi.
Et ce matin, dans Grand Main vous fasse, comment aider les bébés, les jeunes enfants à mieux s'endormir, à mieux dormir, en compagnie de la psychologue Héloïse Junier, du pédiatre Arnaud Fersdorf et de l'infirmière puéricultrice Nadège Pétrel. Alors, avant d'accueillir Jérémy, pourquoi le sommeil est-il aussi fondamental pour la santé des bébés, des jeunes enfants? Quels sont les bienfaits du sommeil sur leur cerveau, leur développement cognitif, sur leur bien-être émotionnel, Héloïse Junier?
Alors, c'est vrai que contrairement aux apparences, le sommeil agit énormément sur plein de bienfaits chez l'enfant, sur le développement cognitif, sur le développement du langage, le développement de ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, c'est le fait de contrôler ses émotions, réguler ses comportements, réguler aussi ses impulsivités. Ça agit aussi sur la prise alimentaire. Par exemple, on voit qu'un manque de sommeil chronique, pas de quelques nuits, rassurons-nous, peut impacter la prise alimentaire, au niveau de langage, la concentration, l'attention, les apprentissages aussi. Donc ça joue sur énormément de plans dans la vie de notre enfant, sur le plan mental et sur le plan physique également. effectivement.
Et le sommeil des enfants est-il différent de celui des adultes?
Alors oui, et c'est vrai que j'aime bien moi commencer mes interventions, mes conférences sur cette thématique-là. Ça fait beaucoup de bien aux parents quand on le rappelle ça, c'est-à-dire que l'architecture du sommeil même de l'enfant est profondément immature à l'image de son cerveau. Il y a trois grandes particularités du sommeil du jeune enfant par rapport à l'adulte. Un, mauvaise nouvelle, ils ont des cycles beaucoup plus courts que les nôtres. Mmh. Et en fait, on voit que dans la nuit, quand on a des cycles, entre deux cycles, on a tous des réveils nocturnes, vous et moi. Et les réveils nocturnes sont physiologiques, sont normaux, on ne se souvient pas. Il n'empêche que quand les cycles, plus les cycles sont courts, plus les micro-réveils sont nombreux. Et plus les pleins réveils peuvent aussi être nombreux. Premier plan, donc les cycles plus courts. Deuxième plan, aussi très important à rappeler, c'est qu'il y a moins de sommeil lent profond que chez nous. Et le sommeil évolue. Et plus l'enfant grandit, plus il a du sommeil lent profond. Et c'est le sommeil où l'enfant n'est pas réveillable, celui qu'on préfère généralement en tant que parent. Et troisième différence, c'est aussi qu'ils ont plus de parasomnie, on l'a vu tout à l'heure que nous.
Rappelez pour ceux qui prennent en cours l'émission,
alors,
les parasomnies.
Tout ce qui est bruxisme, le fait de serrer les dents, le fait de somniloquie, le fait de pas dans le sommeil, ce sont des comportements qui sont bénins, mais qui arrivent durant la nuit, qui peuvent provoquer aussi des réveils nocturnes. Donc, sur un plan endogène, ils ont plein de raisons de ne pas faire leur nuit, en fait.
Docteur Ferdorf.
Alors, il y a toutes ces... Effectivement, il y a tellement de choses qui se passent pendant le sommeil, et déjà chez le fœtus, hein, la construction, l'intégration des bruits, des lumières, parce que le fœtus voit déjà des lumières, le nouveau-né, le nourrisson. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliards de neurones à la naissance, mais comme le disait Loïse, l'immaturité du cerveau et des nerfs. Et là, ça va mettre des années, jusqu'à l'adolescence en particulier, la fameuse myéline qui va entourer, les gaines de myéline qui vont entourer les nerfs, qui vont permettre la maturation, la conduction beaucoup plus rapide de l'influx vers le cerveau et retour. Et tout ça, il y a besoin du sommeil. C'est extrêmement important pour le développement du cerveau, ce développement de tout ce qui est intégration.
Et nous accueillons Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
D'où appelez-vous Jérémy ?
J'appelle de Minglon dans la Drôme.
Alors vous êtes le père d'un petit garçon de 15 mois, c'est ça ?
C'est ça.
Quelle est votre question, votre témoignage ?
Alors j'avais une question parce qu'il a été en cododo pendant très longtemps. Là on a changé de lit parce qu'il a grandi. Et il continue toujours les réveils nocturnes, deux ou trois, ça dépend. Ça va de 1 à 3. Des fois c'est pour téter, des fois non. On a essayé de changer de place pour que moi je relaye la maman pour lui donner le biberon, mais quand je crois qu'il sait qu'il y a la maman, ben il est plus attiré par la maman que par mon biberon. Parce qu'on fait les deux, il y a l'allaitement maternel et l'allaitement avec du lait. Et voilà. Donc je me demandais comment faire pour limiter ou faire que des fois on passe quand même une nuit entière, tous ensemble.
Nadège Pétrel.
Oui, alors déjà moi la première question c'est: est-ce qu'en journée, il mange suffisamment et est-ce qu'il a bien ses apports lactés ou pas? Et comment est la courbe de croissance avant, effectivement, de se dire qu'on va peut-être commencer à supprimer des tétés la nuit? Et ensuite, voir effectivement si maman est dans une optique de sevrer ou pas. Parce que l'hormone de la lactation, il faut savoir qu'il y a un pic la nuit. Et donc, effectivement, bien souvent, les enfants continuent d'avoir une ou deux tétées la nuit. Après, est-ce que c'est une tétée et il y a un réveil qui est long, qui est associé? Ou est-ce que c'est une tétée et il se rendort rapidement? Voilà, tout ça, ce sont des questions que j'aurais aussi à poser au papa.
Tiens, Jérémy, alors?
Alors, bah, quand il est à la maison, ou enfin quand il est à la crèche en tout cas, il boit plus trop de lait, pourtant il y a ce qu'il faut dans le sac, mais il n'en demande pas trop. À la maison, quand on l'a, il peut se passer une journée sans qu'il demande le sein. C'est aléatoire.
Docteur Ferdorf.
Alors, c'est vrai que le cododo, c'est bien, ça aussi ses limites. Ça, j'en parle avec les parents, il faut savoir aussi aider un enfant à s'autonomiser. Et ça, c'est un sujet extrêmement vaste, l'autonomisation du nourrisson. On le garde près de soi, c'est vrai qu'il y a plein de choses aussi là-dedans.
Sujet polémique, hein, le cododo.
C'est un sujet très polémique.
En France.
Mais c'est une bonne chose. Et le sujet, c'est que l'enfant doit quand même apprendre à s'autonomiser. Et c'est vrai qu'à 15 mois, un enfant ne doit plus avoir de repas, deux ou trois dans la nuit, parce qu'il y a une espèce d'habitude, de pic d'ACTH, de pic de glycémie qui vont intervenir. Je rappelle que c'est pendant le début de la nuit qu'il y a les pics de l'hormone de croissance aussi qui interviennent, et il est normal qu'il y ait un réveil de l'enfant. Et il faut savoir qu'un enfant de 15 mois qui se réveille en hurlant, qui se met debout dans le lit, qui a les yeux grands ouverts, il n'est réveillé qu'à 50%. Il n'est pas réveillé à 100%, il faut le savoir.
Héloïse Junier.
Alors moi j'aime bien bondir sur le fait, alors tout ce qui est allaitement, c'est vrai que généralement genre, tant que la mère tient, bon c'est un environnement, c'est un phénomène qui est très naturel, on va l'encourager, mais néanmoins pour la j'apporte du biberon, parce que ça me pensait à ça, ce témoignage. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent qu'ils rendorment leur enfant avec un biberon la nuit, ce qui va générer parfois un syndrome de prise alimentaire nocturne. Donc, c'est pas l'allaitement, c'est vraiment tout ce qui est biberon. Et on sait que ça va provoquer des réveils nocturnes et qu'après, on a beaucoup de mal à le supprimer de la nuit. Mais alors, donc l'allaitement, je dirais, elle continue tant qu'elle peut, c'est phénomène naturel. On voit dans les recherches néanmoins pour l'allaitement que, de manière générale, les bébés qui sont allaités voire plus tendance à se réveiller durant la nuit. L'allaitement étant plus aqueux, il est fait pour être donné de manière plus régulière. Mais pour le biberon, en tout cas de nuit, c'est vrai, on devrait essayer de supprimer tout apport de lait, en tout cas.
Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir appelés. Nous accueillons Anaïs. Bonjour, Anaïs.
Bonjour.
Vous appelez d'Angers, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, quel est votre témoignage ? Vous avez un bébé de 5 mois ?
Une petite fille qui s'appelle Billy et qui fait du cododo. Donc, elle a un berceau qui est collé à notre lit. Et en fait, on la couche en même temps que nous. C'est-à-dire son rythme est un petit peu calé sur le nôtre. C'est-à-dire vers 23h30, minuit. Donc, ça peut sembler tard pour un bébé. Mais c'est vrai que l'heure à laquelle elle s'endort, elle voulait savoir si c'était nocif pour sa santé.
5 mois, oui, Dr. Ferzorf.
Oui. Oui, je peux dire un petit mot. C'est vrai que faut faire comme vous sentez. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que d'avoir son bébé en cododo, c'est très rassurant. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que à 5 mois, c'est un peu plus facile que quand bébé aura 8 ou 9 mois. Ce que disait Héloïse tout à l'heure, un bébé à 5 mois a à peu près des rythmes de sommeil d'une heure, grosso modo. À la naissance, c'est 50 minutes, et là, c'est à peu près une heure. Et toutes les 50 minutes ou 60 minutes, il y a un passage en phase de sommeil agité, et qui fait que tous les sens sont en éveil. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, avant de repasser dans la phase de sommeil profond suivante. Et bien, pendant cette phase-là, l'odorat se remet en mode « on », Et comme je dis souvent aux parents, dans la chambre des parents, ça sent la pizza. Enfin, c'est-à-dire le lait de la maman, quoi. Donc, c'est un peu normal qu'il pleure. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à le mettre un peu plus loin que le lit. Ou alors, commencer un petit peu à le mettre dans sa chambre, dans la journée, par exemple, pour commencer à l'habituer un petit peu.
Héloïse Junier.
Alors, je dirais qu'à 5 mois, effectivement, les réveils nocturnes sont fréquents. Dans les recherches, on voit, quand on compare son bébé à la statistique des bébés, on voit qu'il y a beaucoup plus de bébés de 5 mois qui se réveillent la nuit que de bébés qui font des nuits complètes, pour que les parents aussi se rassurent. Ça, c'est un point quand même qui est important.
Un mot sur le cododo, quand même. Il y a beaucoup de questions sur le cododo. Ouais. Dans votre livre, Héloïse Junier, il y a un dessin assez drôle. C'est un dîner en famille. On les voit discuter tranquillement et il y a un convive qui dit « Surtout, ne parlons pas du cododo. » Et puis, il y a le deuxième dessin où on les voit s'empoigner, se disputer, se battre, un peu à la façon de ce fameux dessin de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé du cododo. Pourquoi est-ce que c'est si polémique, cette question du cododo ? Rappelez d'abord peut-être ce qu'est le cododo et pourquoi c'est, vous l'avez dit, polémique dans notre pays.
Alors, il y a deux types de cododo. Il y a qu'on appelle le partage de lit et le partage de chambre. Mais les deux font polémique. Donc, en fait, on y est aussi. En fait, c'est polémique vraiment que dans nos cultures occidentales et notamment vraiment particulièrement en France. En France, on a cette prédominance déjà de la psychanalyse et de la manière de percevoir l'enfant, de venir sexualiser un peu son corps et de lui attribuer des intentions sexuelles. Et il y a plein de raisons qu'aujourd'hui qui font que les psychologues découragent le cododo, mais notamment, moi je vois beaucoup de psychologues qui découragent le cododo parce qu'ils disent que c'est la porte ouverte, la voie royale à l'inceste. Alors c'est vraiment des propos qui sont très psychanalytiques, très dogmatiques, c'est-à-dire que tous ne sont pas comme ça. Et n'empêche qu'il y a une pudeur en France de la proximité corps à corps entre le corps de l'adulte et le corps de l'enfant, que ce soit la journée quand l'enfant pleure en portage, mais que ce soit aussi la nuit.
Dans les cultures occidentales.
Occidentales et surtout, vraiment surtout en France. Moi j'ai des parents qui ont élevé des enfants en Angleterre, qui ont élevé des enfants en Allemagne, leur premier, deuxième, ils arrivent en troisième enfant en France, ils se disent mais heureusement que j'ai pas élevé mon premier enfant en France, parce que j'ai plein d'injonctions que je n'avais pas dans mon pays, même en Occident.
Docteur Ferdorf.
J'en profite pour rappeler, pour que ce soit bien clair pour les parents, le cododo, il ne faut pas que ce soit dans le lit des parents. Moi, j'ai perdu deux enfants comme ça dans ma patientèle.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Deux mamans qui se sont endormies sur leur bébé, parce que c'est une période de grande de fragilité, de fatigue, tout ce qu'on voudra. Et c'est horrible. S'endormir, s'affaisser alors que bébé est repu, il est contre vous, vous le mettez à côté, vous vous endormez, vous vous effondrez sur votre bébé, il va s'étouffer, il va rien dire, c'est horrible. Donc le cododo, il faut le faire à côté. Vraiment, j'insiste là-dessus.
Comme le lit.
Un lit à côté.
Oui. Nadège Pétrel.
Oui, alors déjà, je voulais rappeler qu'effectivement, les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est effectivement d'avoir son bébé dans la chambre des parents. Alors, comme le disait Arnaud, c'est dans un lit à part, dans ces recommandations-là, jusqu'à l'âge de 6 mois, en raison du risque de mort inopinée du nourrisson, comme il le précisait. Mais ensuite, il y a des façons très simples, effectivement, et sécuritaires de le mettre en place. Donc, d'avoir une gigoteuse qui soit adaptée à la taille de son bébé, de ne pas mettre de coussins, ni peluches, ni tour de lit à l'intérieur du cododo, d'éviter tout ce qui est tabagisme passif, d'avoir une température de la chambre qui ne soit pas trop élevée, et d'avoir un petit matelas qui soit assez ferme. Mais effectivement, jusqu'aux 6 mois de l'enfant, on peut largement, voire plus même, le garder dans la chambre des parents.
Merci beaucoup, Anaïs, de nous avoir appelé. Nous accueillons Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Paris ?
Du tout, de Saucer-les-Pins.
De Saucer-les-Pins. Alors excusez-moi, j'ai une mauvaise information sur mon écran.
C'est pas grave.
Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour votre fille.
Alors oui, moi ma fille Esmé qui aujourd'hui a presque 10 ans, donc elle est plus touchée, mais juste pendant 5 ans et demi, elle a fait de très grosses terreurs nocturnes, mais vraiment, enfin, je sais pas ce que les gens entendent par terreurs nocturnes, mais moi avant de les vivre, j'avais pas idée de ce que c'était. Donc c'est extrêmement violent, elle hurlait, elle avait clairement peur de quelque chose et j'arrivais pas à la réconforter ou... Elle avait l'impression, enfin moi j'avais l'impression qu'elle dormait, mais elle avait les yeux grands ouverts et elle criait. C'était vraiment atroce et ça a duré quasiment 5 ans et demi, de manière plus estompée après. Mais quand même, bon après c'est assez étrange que juste avant vous ayez parlé de ça, mais avant elle, j'ai perdu un enfant de la mort subite du nourrisson. Alors pas en m'endormant sur elle ni rien, mais voilà, elle est morte dans son sommeil, pas la nuit, la sieste. Et je me suis demandé, enfin voilà, et je voulais savoir d'où ça venait et si ça pouvait avoir un lien avec ce qui s'était passé avant, alors même qu'elle était tout bébé et qu'on n'en avait jamais parlé avec elle à ce moment-là.
Héloïse Junier.
Alors, c'est que les terres nocturnes sont une des parasomnies qui existent, qui survient normalement pendant le sommeil lent profond. Ça arrive chez un pourcentage d'enfants qui est non négligeable. Je ne sais plus exactement le pourcentage, mais ça arrive malgré tout. Ça peut être lié, effectivement, à du stress diurne que l'enfant vit. Ça peut aussi avoir un héritage plus génétique, voire héréditaire. On voit que les enfants qui font les terres nocturnes répétées ont souvent un des parents qui faisait des veilles dissociées étant petit. Ça peut être du somnambulisme, ça peut être aussi des terreurs nocturnes. Et après, il faut différencier les terres nocturnes en tant que telles de ce qu'on appelle l'éveil confusionnel, qui est une autre parasomnie qui se rapproche un peu comportementale, mais qui aura des grandes différences, notamment en termes de longueur.
C'est quoi l'éveil confusionnel ?
L'éveil confusionnel, c'est aussi un éveil dissocié, mais qui peut survenir plusieurs fois par nuit, qui peut survenir en sieste, qui peut surtout durer beaucoup plus longtemps, plus d'une heure, alors que normalement, en terre nocturne, c'est un épisode qui est plus court en termes de durée. Et surtout, l'éveil confusionnel, ça commence beaucoup plus progressivement durant la nuit de l'enfant, alors que la terre nocturne, c'est un peu on-off, ça commence plus soudainement.
Nadège Pétrel ?
Oui, ben en fait, je voulais rebondir sur ce que la maman disait, parce qu'effectivement, c'est très impressionnant pour les parents. Et comme elle disait, en fait, les enfants ne sont pas réveillés. Le matin, si on en discute avec eux au petit déjeuner, souvent, ils ne se souviennent pas d'avoir eu cet épisode de terreur nocturne. Donc oui, c'est impressionnant, mais voilà, il faut bien rester auprès de son enfant, protéger autour de lui pour être sûr qu'il ne se fasse pas mal. Et après, effectivement, ça finit par passer. Ouais.
Docteur Ferdor.
Alors, la maman qu'on a là au téléphone, c'est très émouvant parce que perdre un premier enfant, une mort subite, alors je réponds très brièvement, on fait plein de recherches là-dessus, on ne sait toujours pas la cause de la mort subite, on sait qu'on a diminué de 60% depuis qu'on les fait dormir sur le dos, etc. Enfin, je ne veux pas revenir dessus, mais on ne sait toujours pas, on n'en connaît toujours pas la raison. Mais c'est vrai que quand on a perdu un enfant, premier enfant, Il est presque inévitable que l'enfant qui va venir après, il va y avoir une telle surveillance, une telle crainte que l'enfant fasse la même chose, que ceci, que cela, que du coup il y a une hyper-alerte, une hyper-vigilance, et ça ne veut pas dire que c'est la faute des parents, hein, rien à voir, mais l'enfant peut le ressentir, parce que l'enfant c'est un buvard, il sent beaucoup de choses, et peut-être que dans une certaine mesure, ça a pu peut-être jouer sur les réveils nocturnes de celle qui a maintenant 10 ans, peut-être. Mais en tout cas, c'est tout à fait remarquable.
Merci beaucoup Virginie de nous avoir appelé. Nous accueillons Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous ?
De Bourgoin-Jallieu en Isère.
Alors vous êtes la mère d'un petit garçon de 18 mois, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Un petit garçon de 18 mois qui n'a quasiment jamais fait de nuit de plus de 8 heures de suite, disons. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et moi, je témoignerais surtout sur l'état de fatigue dans lequel on est avec mon mari.
Tellement.
C'est atroce, en fait. En ce moment, depuis peut-être 2-3 mois, il est sur des réveils nocturnes qui durent 2 à 3 heures de suite. Et c'est affreux.
Et d'ailleurs, Héloïse Junier a écrit son livre pour les parents qui ne font pas leur nuit. Ouais. Hein. Donc... D'ailleurs, j'aimerais qu'on s'arrête. Merci de nous avoir appelé, Sarah, restez avec nous. Ça signifie quoi exactement cette expression « il ou elle fait ses nuits » Est-ce que ça signifie que les bébés doivent enchaîner 12 heures de sommeil d'affilée Héloïse Junier, éclairez-nous sur cette fameuse expression « faire ses nuits ».
Déjà, cette expression est horrible, on devrait arrêter de la prononcer avec les parents, c'est vrai. En fait, l'expression « faire ses nuits » pour les parents et pour les chercheurs. Pour les parents, c'est mignon parce que c'est poser leur enfant aller à 20h dans le lit, tout bonne humeur, et le retrouver genre 12h plus tard, tout frais, tout rose, qui sent bon, vraiment de bonne composition. Pour un chercheur, c'est bien différent. Faire ses nuits, ce n'est que enchaîner 6 à 8 heures de suite, sans, de manière ininterrompue, et je mets ininterrompue entre guillemets. Pourquoi ? Parce que les enfants qui font leur nuit, entre guillemets, de manière ininterrompue, entre guillemets, c'est ceux qui ne vont pas réveiller leurs parents. Et donc, en fait, faire ses nuits, pour un enfant, ça va être faire ses nuits de ses parents. Mais ceux qui se réveillent la nuit, mais qui se rendorment tout seuls, ou qui font peut-être un quart d'heure de réveil, mais qui s'endorment tout seul, eux, ils font leur nuit aux yeux des parents parce qu'ils ne les réveillent pas.
Docteur Farzor.
Alors moi, j'aime bien, quand j'ai un couple en face de moi, quand il y a les deux parents, c'est presque toujours le papa. Mais je dis pas ça contre les papas, mais j'ai remarqué qu'il y a, alors que le bébé n'a que 2 ou 3 mois, qui pose la question, en regardant la maman, « Mais docteur, quand est-ce qu'il fera ses nuits ?» Et là, souvent, je réagis en disant, avec un grand sourire, en disant, vous voulez dire quand est-ce que vous ferez vos nuits ? Et alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, attention à Internet. Parce que dès l'instant où un jeune bébé, déjà à 2-3 mois, a des problèmes de sommeil, de réveil, tout ce qu'on voudra, trop souvent, les parents vont sur Internet, font même appel à l'IA maintenant, et arrivent en consultation, Héloïse, vous devez le voir, en disant, ah ben voilà, il a un RGO, il doit avoir une allergie au lait, c'est mon lait qui n'est pas bon, patati patata, donc je suis une mauvaise mère, donc je suis un mauvais père. Donc attention au diagnostic Internet.
Ouais. Sarah, comment ça va aujourd'hui ?
Non, on est au bord du gouffre.
Ah oui.
J'ai déjà proposé à mon mari de divorcer pour faire chacun des...
Nadège Pétrel, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants, consultantes en sommeil qui vendent quand même des espèces de programmes ou des promesses aux parents pour justement qu'ils fassent leur nuit. Et là, j'ai juste envie de dire attention. Attention à ces belles promesses et puis attention aussi à faire attention à est-ce que c'est physiologique, est-ce que c'est adapté à l'âge de votre bébé, etc. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les parents sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça peut vendre du rêve. Et effectivement, les parents peuvent avoir des attentes qui sont justement un petit peu à côté de physiologiquement ce qui est possible pour des bébés, malheureusement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir appelé. Oui, Héloïse Junier.
Juste dire, est-ce que nous, on fait nos nuits ? Est-ce qu'on a, des fois, on a 40 ans, 50 ans, est-ce qu'on fait nos nuits ? Ali, vous nous disiez tout à l'heure que ce n'était pas le cas.
Hors antenne.
Voilà, hors antenne. Effectivement, on peut avoir 40 ans, 50 ans, on peut faire nos nuits et on demande à des enfants de 2 ans, 3 ans de faire leur nuit. Juste, c'était un non-sujet, quoi.
Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir appelé. Alors, j'aimerais qu'on en vienne aux ennemis et aux amis du sommeil des tout-petits. Alors, parmi les ennemis, Héloïse Junier, il y a les écrans.
Alors, il y a plein d'ennemis. Les écrans, la lumière trop forte, les veilleuses. Les veilleuses vendues dans le commerce pour les enfants.
Les veilleuses avec projection lumineuse et sonore.
Oh, mais toutes les veilleuses. Généralement, les veilleuses qui sont trop blanches, les veilleuses qui sont trop stimulantes, les veilleuses qui font du bruit, les veilleuses qui changent de lumière durant la nuit, de couleur, sont des veilleuses qui sont inadaptées. D'ailleurs, pour avoir fait une petite étude personnelle des veilleuses en puériculture vendues pour le bébé sur le marché, moi j'ai trouvé qu'elles étaient toutes inadaptées et que les meilleures veilleuses, c'est les veilleuses qui sont peu lumineuses, qui sont situées le plus loin possible de l'enfant et surtout au rangé.
Parmi les ennemis, il y a également les repas trop riches.
Les repas trop
riches. Les bonbons.
Oui, effectivement. En fait, tout ce qui va élever la température corporelle de l'enfant durant le soir, ça peut être des dîners qui sont trop protéinés et trop indigestes. Ça peut être trop de stress durant la journée.
Il y a l'absence de routine aussi.
L'absence de routine. En fait, on voit que la routine, c'est l'un des éléments dans la recherche qui est très étudié pour recherche sommeil pédiatrique, pour et un, donc raccourcir le temps d'endormissement, deux, diminuer le nombre de réveils nocturnes, et trois, augmenter la durée du sommeil nocturne. Donc c'est vraiment des rituels qui vont permettre d'avoir un grand taux de prévisibilité de l'environnement, et plus c'est prévisible pour l'enfant, plus c'est confortable.
Et les amis du sommeil des tout-petits ?
Alors, les amis du sommeil, c'est la question à 1 million. Déjà, dans la recherche, en chronobiologie, on distingue 3 grands amis du sommeil. Pour qu'un enfant s'endorme bien le soir, il faut qu'il ait un haut niveau de mélatonine. Donc, pas trop lumière blanche, pas trop lumière directe, pas trop lumière vive. Deuxième, il faut qu'il ait un bas taux de cortisol, donc peu de stress. Donc, on peut faire des massages, voilà, du peau à peau, ce qu'on veut, des rituels. Et troisième élément, il faut aussi qu'il ait une température corporelle qui soit régulée. Donc, pour ça, on va pas trop couvrir l'enfant, pas trop couvrir ses pieds, qui vont gagner 1 degré durant la nuit. Et aussi, on voit qu'un taux de CO2 plus bas va accélérer l'endormissement. Donc, c'est-à-dire, en gros, ouvrir la fenêtre tous les soirs, hiver comme été, pour faire dormir mieux l'enfant, le rendormir mieux durant la nuit.
Docteur Arnaud Fersdorff, dans votre petit livre « Mon enfant ne dort pas, un problème, cette solution », vous consacrez un chapitre au rituel.
Oui, le rituel, c'est très important. Mais attention, rituel ne veut pas dire stimuler l'enfant. Et très souvent, un des deux parents ne voit son enfant qu'à ce moment-là, parce qu'il rentre tard, et il aura envie de jouer avec son jeune enfant. Mais oui, mais jouer alors qu'il doit aller au lit, c'est pas forcément le bon moment. Donc, rituel du coucher, oui. Pas forcément une histoire à lui raconter. Lui peut raconter une histoire avec les mots qu'il possède pour dire un peu et déminer ce qu'il a peut-être stressé dans la journée. Et ça va désamorcer que ça descende pendant la nuit. Et puis, le temps calme, comme on dit, y aller tranquillement, pas le dropper, comme je disais tout à l'heure, et dire bonne nuit, allez, adieu. Puis lui, il entend que la vie continue dehors.
Moi, tout à l'heure. Et vous... S'il se réveille à tout à l'heure, du coup.
Voilà. Et vous expliquez dans votre livre, Arnaud Fersdorff, que en fait, la nuit, ça se prépare dans la journée.
La nuit se répare pendant la journée.
Non, se prépare la journée.
Oui, bien sûr. Mmh. Elle se prépare. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'enfant à avoir des temps calmes dans sa chambre. Je reviens là-dessus, mais on ne va pas faire une émission sur le cododo parce que c'est un sujet passionnant. Mais il faut apprendre à l'enfant à s'autonomiser, à intégrer sa chambre et à savoir que sa chambre, ce n'est pas un endroit où on l'abandonne. C'est très important pour lui. Et j'en profite pour dire un truc dans les trucs pour le sommeil, un truc tout bête auquel on ne pense pas. Attention à la grosse peluche sur l'armoire.
Ah oui, terrifiant.
Alors là, c'est récurrent. Et la nuit, quand il se réveille, il va voir cette ombre épouvantable et ça va être un monstre.
Même nous.
Ça me rappelle les poupées.
C'est tout bête.
Sur l'armoire de chez ma grand-mère. Vous savez, les poupées un peu style Chucky.
Ah oui. Non, la journée, elles sont sympas.
Non, elles sont sympas dans la journée, mais c'est vrai que la nuit. C'est vrai que vous avez raison de rappeler ça.
Oui, c'est tout bête,
Nadège Pétrel.
Oui, moi aussi, je voulais compléter. Parce que des fois, on veut coucher notre enfant, et puis effectivement, nous, on a encore 10 milliards de choses à faire, on est encore un petit peu agité, on a peut-être les grandes lumières allumées dans la maison, et au final, on se rend compte que l'environnement n'est pas encore propice au sommeil. On n'en voit pas les signaux de maintenant, il faut faire dodo, et surtout là, avec les soirées, enfin le jour qui va être de plus en plus tard, avec le changement d'heure qui approche. Donc on peut déjà commencer à baisser un petit peu les lumières dans la salle à manger, dans les couloirs, entrefermer les volets, même si nous on sait qu'on va pas aller se coucher à la même heure que notre enfant. Et la deuxième chose, c'est que pour qu'un enfant apprécie d'être au calme, assis ou allongé, eh bien il faut qu'avant il ait eu son besoin de mouvement qui soit complété. C'est-à-dire que par exemple, des fois ils vont avoir besoin qu'on bouge beaucoup pour ensuite apprécier le repos du corps. Donc effectivement, en dehors de la chambre, c'est vraiment dans le salon, dans la salle à manger ou dehors, on peut faire une activité où l'enfant va se défouler physiquement et ensuite mettre en petite règle du coucher, et bien que quand on rentre dans la chambre, là par contre, on a des mouvements lents, on marche, on ne court plus, on ne saute plus, etc. Mais pour ça, ça veut bien dire qu'avant, il faut avoir défoulé notre enfant.
Allez, dans quelques instants, je vous propose de passer en revue quelques idées reçues sur le sommeil des tout-petits. On se retrouve juste après avoir écouté Sam Sauvage qui interprète Le langage de l'amour, 10h49 sur Inter.
Cela n'engage que moi, mais vous ne trouvez-vous pas vrai qu'il ne faut pas toujours parler pour mieux s'entendre et s'écouter? Plus il y a de silence et plus il y a de bruit, tout en élégance et preuve à l'appui. Quand je serre le corps de ma bien jolie, j'entends les accords d'un cœur attendri. Hein. L'amour est un langage parfait. dont les gens ne retiennent que les faits. Il faudrait pouvoir se déduire, sans pour autant tout se dire, tout se dire. Des mains serrées dans des mains, des yeux fermés dans des seins, des baisers qu'on étire, parfois jusqu'au lendemain. Des mots d'amour qui s'écrasent avant même la fin de ta phrase. Des mots qui ne disent rien, des mots dont on n'a pas besoin. Plus y a de silence et plus y a de rire, tout en évidence et sans faire mourir. Tous ces petits riens qui nous font sourire, si on le sait bien pourquoi se le dire. L'amour est un langage imparfait, dont les gens n'entendent que ce qui leur plaît. Il faudrait pouvoir se traduire, mais ce serait pire. Pire. Cela reste entre nous, mais je ne sais pas si vous, c'est toujours aussi compliqué de vous parler sans s'égarer dans des silences qui font trop de bruit. Qui nous éloignent, qui refroidissent nos corps et qui nous trahissent, sans qu'on puisse dire que des lèvres posées sur nos joues froissées par les échos suffisent à se faire du bien sans se dire un mot. Des mots d'amour qu'on arrache sans même qu'on s'y attache, des mots qui me disent rien, des mots dont on se passe vite, tout en imprudence et sans rien prédire. Quand je sors le corps de ma bien jolie, j'entends les accords d'un cœur à chérir. L'amour est un langage imparfait que je n'ai jamais su bien lancer, mais je crois que je peux l'écrire si tu veux le lire.
Sam Sauvage, le langage de l'amour.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Comment vous fasse, comment aider les tout-petits à mieux s'endormir et à mieux dormir, avec Héloïse Junier, Arnaud Pfersdorf et Nadège Petrel. Docteur Pfersdorf, vous vouliez parler d'une chose très très importante, le syndrome du bébé secoué.
Ah oui, alors là, c'est un sujet, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres, or non. Le bébé secoué, c'est une des causes de mortalité, on en parlait, Héloïse venait de le rappeler, majeure chez les jeunes enfants de moins de 1 an. Le bébé secoué, c'est les parents qui sont au bout de leur vie. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne dorment pas, ils crient, enfin souvent ça va de pair. Ils n'en peuvent plus et à un moment donné, ils sont seuls dans la chambre, ils gardent l'enfant, ou peu importe, ça peut arriver aussi à une nounou, une nourrice, et tu vas arrêter de pleurer, on prend l'enfant en liant devant soi, on le secoue, et après c'est fini. Et nous, nous savons, grâce à l'IRM, faire le diagnostic différentiel, parce qu'évidemment, quand on voit ses enfants à l'hôpital, c'est toujours la même chose, le parent, ou celui qui l'amène, dit, il est tombé de la table allongée. Non, il a été secoué, donc grande prudence, et je dis aux parents, si vous avez des problèmes de sommeil avec votre enfant qui est jeune, surtout, avancez ensemble, à deux, faites-vous aider par un voisin, la famille, consultez. La grand-mère, mais ne restez pas seul, parlez-en à votre pédiatre, à votre psychologue, ne restez pas seul.
Héloïse Junier, je rappelle que vous êtes psychologue, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la tentation de secouer le bébé parce qu'il n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qu'on doit se dire au moment où on a cette impulsion-là?
Déjà, reconnaître ces signaux de stress. Il y a des parents qui apprennent à reconnaître le stress, on ne peut plus, on devient de plus en plus stressé, impulsif. Et surtout, on est tous d'accord pour dire ça, on ne laissera jamais un bébé pleurer seul, mais n'empêche que quand on sent que le stress est trop important pour l'adulte, on pose le bébé et on s'en va, on quitte la pièce et on revient que quand on est parfaitement régulé. Mais vous, un bébé qui pleure seul, qu'un bébé qui soit secoué, clairement. Et je suis d'accord avec Arnaud. Oui.
Nadège Petrel, je rappelle que vous êtes infirmière puéricultrice.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on remarque aussi que les parents vivent souvent isolés ou en tout cas loin de leur famille, avec peu de relais. Il y a beaucoup de pression. Ils sont souvent seuls aussi pour s'occuper de leur bébé, là où avant, on avait les grands-parents qui habitaient soit dans la même maison, soit juste à côté. Donc effectivement, c'est pas évident. Comme le disait Héloïse, de pas hésiter effectivement à poser le bébé dans ces moments-là, savoir que d'avoir du stress lié aux pleurs et de ne pas savoir toujours comment réagir, ça arrive. Il y a un petit film sur Internet qui s'appelle « Je pleure, donc je suis », justement, qui parle des pleurs du bébé et du risque du syndrome du bébé secoué. Donc, ça remue, mais en tout cas, les parents ne sont pas seuls et il ne faut pas hésiter, effectivement, à demander de l'aide, même si je sais que ce n'est pas toujours facile.
Tiens, Nicole qui nous demande « Que pensez-vous de la diffusion de bruits blancs pour aider à l'endormissement ? Les parents de mon petit-fils utilisent cette technique qui marche. »
C'est à moi.
Louis Junier, oui.
Du coup, oui, alors les brubons, c'est dans mon livre, j'ai consacré un chapitre parce que beaucoup de parents me demandent si c'est une bonne idée. Aujourd'hui, il existe des peluches à bruit blanc, applications bruit blanc.
C'est quoi un bruit blanc ?
Un bruit blanc, en fait, c'est un bruit qui est neutre. Par exemple, alors ça peut être des bruits d'origine naturelle comme la pluie, battement cardiaque, ou d'origine artificielle comme le sèche-linge, aspirateur. Quand même, précision, fun fact, il y a des chaînes YouTube qui existent avec 8 heures d'aspirateur à la suite. Genre juste, c'est quand même.
Alors qu'est-ce que en dit la science ?
Bah, la science, on ne dit rien du tout. En fait, les bruits blancs chez l'adulte, ça a été étudié, mais chez l'enfant, ça n'a pas été étudié de manière générale, parce que les chercheurs voient ça comme une béquille, comme un conditionnement à l'endormissement, et en plus on suspecte que le bruit blanc pourrait gêner aussi le sommeil de l'enfant, parce qu'on dit l'oreille n'a pas de paupières, donc les bruits parviennent en continu à l'oreille et au cerveau, qui les traitent en continu, et du coup ce serait défavorable, et en plus d'être conditionnant pour l'endormissement, donc on évite. De temps en temps, oui, mais pas tous les soirs en systématique.
Une idée reçue pour terminer, il faut laisser un bébé pleurer seul, il finira bien par s'endormir.
Alors, oui, c'est vrai que j'avais fait aussi un chapitre. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait ma thèse sur les émotions du nourrisson. Je suis très engagée pour les nourrissons. Bien évidemment que non, on laisse moins possible un bébé pleurer seul, sauf si on n'en peut plus. Les pleurs, c'est une scène de détresse, d'attachement, qui est fait pour ramener le corps de l'adulte jusqu'au bébé, pour être régulé. Donc, idéalement, on ne laissera pas pleurer un bébé seul. On respectera le bébé. Mais bien sûr, si on n'en peut plus, on le pose et on s'en va. On l'a dit tout à l'heure, oui.
Elsa, on termine avec vous. Bonjour.
Bonjour.
D'où appelez-vous, Elsa ?
De Montpellier.
Alors, quel est votre témoignage, votre question ?
Alors, moi, j'ai eu une petite fille qui a 2 mois et demi, et on a eu beaucoup de mal à la voir, on est passé dans un gros parcours, et aujourd'hui, c'est juste un grand plaisir de me réveiller la nuit, 1 à 2 fois par nuit, pour lui donner le biberon, pour lui faire un gros câlin.
Ben, c'est très bien de terminer ça. Comme ça. Elsa, merci beaucoup pour votre témoignage. Allez, un dernier, tout dernier conseil pour justement aider les enfants à s'endormir, de faire dormir. Peut-être s'il y avait une chose à retenir.
Mais ce qu'on vient d'entendre, là, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Il faut savoir que quand un bébé va arriver, il faut se caler sur le rythme de l'enfant, du bébé puis de l'enfant. C'est constant et ça va jusqu'à l'adolescence. Mais j'ai envie de dire des gros mots presque là. Il faut se caler en tant qu'adulte sur le rythme de l'enfant. Souvent, hélas, comme on le disait tout à l'heure, il y a des injonctions. On est pressé, on est ceci, on est cela. Donc cette parole était très belle. Je suis contente de me réveiller la nuit pour donner du biberon. Eh ben c'est chouette. Il faut que ça continue comme ça.
Merci Elsa. Et Louise Junier.
Deux points. Juste un, relativiser les réveils nocturnes. Ça s'estompe avec le temps, ça s'améliore comme avec le temps. Et de profiter, parce que dans 10 ans, 15 ans, on regrettera tous ces nuits incomplètes où on fait des câlins à nos enfants. Ils voudront plus nous dans 20 ans, donc profitons-en.
Nadège Pétrel.
Eh bien, moi, je voulais ajouter juste une petite phrase qu'on peut dire aussi à notre enfant le soir avant qu'il ne s'endorme. C'est que tout va bien et qu'on se revoit demain matin. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nuit, c'est une grande séparation entre notre enfant et nous. Et des fois, ça peut être un petit peu stressant. Et juste de leur dire on se revoit demain matin, eh bien, au final, ça fait un petit fil invisible de continuité. Mais ça permet de rassurer les enfants et de leur dire qu'au final, on est toujours là et on se revoit.
Merci beaucoup, Héloïse Junier. Le sommeil du jeune enfant de 0 à 6 ans pour les parents qui ne font pas leur nuit, c'est publié chez Duno. Merci, Nadège Pétrel. 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir, c'est publié aux éditions Erol et c'est plutôt destiné aux 0-4 ans. Merci, docteur Arnaud Pfersdorf. Mon enfant ne dort pas. Un problème, cette solution, c'est publié chez Hachette Famille. On vous doit également Bébé Premier Mode d'Emploi, toujours chez Hachette. Tous les épisodes de Grand Main Vous Fasse sont podcastés sur l'appli Radio France. Les extraits vidéo de l'émission sont disponibles sur les réseaux sociaux de France Inter et sur mon compte Instagram. Demain, qu'elle soit électrique ou thermique, comment choisir sa voiture ?